Ce fut une balle allemande, en 1918, qui sectionna la moelle épinière de Joé Bousquet, le privant pour le reste de ses jours de l'usage de ses jambes. Il avait 21 ans. Durant les 32 années de sa vie d'écrivain allongé, il ne quitta que rarement sa chambre au volet clos du 53 de la rue de Verdun à Carcassonne. Aux fenêtres, d'épais rideaux rouges. Au mur, les tableaux de son ami Max Ernst, à portée de sa main la pipe d'opium qui soulageait ses douleurs. C'était là où, dans sa proche campagne de Villallier, que venaient le visiter ses amis. Jean Cassou, René Nelly, Ferdinand Alquier, Paul Éluard et Gala, Paulhan, Aragon et Elsa, la philosophe Simone Veil et tant d'autres. C'était dans cette chambre que le retrouvaient celles qui devinrent sous sa plume Iselle, Ortie, Blanche par amour, ou Rainette ou Abeille d'hiver. Toutes celles qui tombèrent sous le charme d'une fascinante personnalité que la blessure reçue privait pourtant des pleines jouissances de l'amour. Dans cette chambre s'est écrite l'une des œuvres littéraires les plus singulières de son siècle, débutée aux abords du surréalisme et dans laquelle beaucoup ont reconnu les prémices du nouveau roman. Seule, couchée dans mon lit, j'ai atteint des hauteurs telles que j'ai creusé le ciel, écrivait Joé Bousquet. Enfermée dans ma chambre, enfermée dans mon corps, je rayonne dans cette lumière immobile. En 1975, Françoise Esteb consacrait un documentaire en deux temps à Joé Bousquet, dont nous écoutons le second. Joé Bousquet, l'inconnaissant, une émission diffusée la première fois le 29 octobre 1975 sur France Culture, avec des lectures de Michael Lonsdale et les témoignages de celle que Bousquet avait nommée Elsie et de celle qu'il appela Poisson d'or.
J'écris pour ceux qui viendront plus tard, avec des âmes à ma ressemblance, assez pures pour se sentir blessées par la vie même comme je l'ai été par la mort. Entre toutes les vérités, choisir celle dont l'éclat s'avérerait insoutenable.
Jo Bousquet, l'inconnaissant. Françoise Esteb. Jean Couturier. René Nelly, voix Michel Lonsdale.
Debout et le visage à la hauteur d'un nid de merle dans le matin de France, il était un soldat habillé de bleu et un beau garçon décoiffé descendant d'une voiture. Pour rêver, il avait besoin de ses yeux. Sa chute a fait un bruit d'armure. Un grand destrier invisible était arrêté à deux pas de l'endroit où on l'a ramassé. À l'horizon de la vie où il venait d'entrer, il y avait une mort plus grande que la douleur. Toute mon adolescence et ma courte jeunesse, j'ai accordé une grande attention à mes souliers. Bizarre attachement qui préfigurait peut-être la longue mélancolie de vivre nu-pied. J'ai été un assez solide officier, mais ne dois cette grâce qu'à l'incompréhensible soin que j'apportais à me bien chausser. Et me voilà. Aucune raison n'avait pu me décider à monter en ligne sans mes bottes. Plus sage, plus résigné, mes camarades faisaient à l'avance la part du pillage et avec des molletières de cuir que l'ennemi raflerait en cas de rupture, ils chaussaient de modestes souliers qu'ils étaient sûrs de conserver. Porter comme moi des bottes, c'était tenter le diable, consentir l'alternative cruelle de se défendre jusqu'à la mort ou d'entreprendre en chaussettes la marche du captif. Tous les coups de feu qui décimaient mon peloton avançaient l'instant humiliant où j'aurais acquitté mes bottes sous l'œil noir des Mauser. Je ne montais cependant jamais en ligne que botté et n'ai jamais compris la raison qui me déterminait.
Nous devons faire la pantomime.
Les fêtes sont impénétrables. Ils sont le secret de notre vie. Mais pas notre secret. Ils se cachent derrière l'objet qu'ils emploient pour nous fasciner.
Le sergent Salle, qui était un plaisancier avec nous, qui était curé. Et puis, des copains, des potards, tout ça. Tous des copains sur qui il avait confiance. Voilà. Alors nous avons marché évidemment. En marchant, on est tombé dessus. Parce que les patrouilles allemandes étaient en distance, distancées de 30 à 30 mètres. Alors, nous sommes tombés sur la première patrouille. Ils se sont levés. Et alors, moi, avec mon petit mitrailleur, j'ai pas même le temps de me baisser, j'ai tiré droit avec mon petit mitrailleur sur la patrouille allemande. Il me dit, ça va, il me dit, tu as fait du bon travail, il me dit. Et alors, évidemment, au coup que j'ai donné sur la première patrouille, l'autre patrouille qui était à 30 mètres plus à droite, hein, a tiré sur nous. Et c'est à ce moment que le mousquet est tombé dans mes jambes. Alors il m'a dit...
Des bottes de cuir rouge ont disposé de mon sort. Je croyais ne les chausser que par un souci d'élégance. Or, je ne les regardais même pas. Étendu après le choc dans la toile de tente où l'on m'emportait, je croyais les voir pour la première fois. Elles paraissaient bourrées de coton, gonflées de vent, entrées déjà dans une vie où je ne les suivrai point. Je regardais mes bottes, mes jambes, sans y reconnaître la vie. Mon corps était avec moi comme un chien mort. On aurait dit que la nuit qui s'étendait sur moi avait sa source au fond de mes yeux. Ce n'était plus assez d'un souvenir ou d'une sensation pour y véhiculer la vie. La voix d'un camarade n'y était plus qu'une voix. Un pas n'y était qu'un bruit de pas. Et soudain, toute parole s'y fit plus basse et se détourna de moi, comme si dans une autre nuit où la nuit me donnait accès, il y avait un silence pour accueillir le mien et se confondre avec lui. Au fond d'une grotte où les soldats venaient de m'introduire, m'attendait une solitude plus forte que la mort.
Et nous l'avons pris. Tous les deux. Et à un moment donné, je sentais que ça n'en est pas, ça n'en est pas. Alors je lui ai dit, écoute, laisse-moi aller. Alors je l'ai pris, je l'ai porté, tout seul. Et alors, je marchais, vous savez. À ce moment-là, j'étais assez costaud pour pouvoir le porter et pour courir. Je ne veux pas laisser le lieutenant Bousquet là, mourir là seul.
Des bottes, un maillot de bain, une pierre couleur d'œil perfide. Sait-on jamais avec quelle partie de notre corps nous voyons ces choses, à travers quelle obscure raison de notre histoire. Le rêve est plus réel que la vie éveillée, parce que l'objet n'y est plus jamais négligeable.
On sait qu'à 19 ans, il était mutilé et il était même paralysé à partir de la quatrième vertèbre. Et il était inerte dans son lit. Il souffrait.
D'excellents esprits vous ont parlé ou vous parleront peinture ou poésie. On vous enseignera la psychanalyse. Moi, je n'ai rien à vous apprendre. Volontiers même, je vous demanderai d'oublier ce que vous savez. L'homme est la créature qui ne sent son existence qu'en la donnant, qu'en la vouant. Il écoute son cœur. Des amis d'enfance et de jeunesse m'attendaient à l'hôpital. Sur mon lit, une belle chatte noire. Je répondais distraitement au bienvenu. Ma pensée de tout à l'heure m'avait suivi. Il va devenir difficile de mourir. Il y avait un peu de soleil. Par les fenêtres entrouvertes, il entrait un air réchauffé par une tiédeur humaine. Entre la mort et moi, quelque chose venait d'apparaître. Je ne savais pas que c'était la vie même, la vraie. La vie avec un visage à elle. La vie qui m'avait fait mon cœur. La vie, était-ce possible? Sans un joli cheval, sans mes bottes, sans une paire d'épées. La vie, sans les fêtes qui organisent les hommes, pas possible. La musique sans la danse, la beauté des femmes sans leur belle complaisance dorée. L'amour sans les images de l'amour, pas possible. Un jour peut-être, mes amis, l'un de vous passera où j'ai passé. Qu'ils se souviennent de ma leçon, qu'ils ne redoutent pas l'avenir, qu'ils s'abandonnent tout entier à l'événement qui le brise, qu'ils donnent joyeusement ce que l'événement ne lui a pas pris, qu'il emploie ses dernières forces à livrer ce qu'on ne lui demandait pas. Ce que je vais vous dire est trop simple pour être compris sur le champ. Il s'agit d'une révélation surprenante, et que la philosophie des universités ne nous aide pas à prévoir. Blessé et infirme pour toujours, je ne pouvais plus penser à moi-même, et une paix pleine d'enchantement descendait sur mon imagination délivrée. À peine s'il survivait une pensée, l'étonnement que mon personnage ait tenu tant de place dans mon propre cœur. Pas possible, se dit-on. Ainsi, je tenais tellement à la figure que je faisais, et cela me coûtait tant de force. Il a suffi que cette charge me soit enlevée pour que la vie m'enivre comme un alcool.
Je l'ai connu alors qu'il n'avait encore rien publié par un manuscrit qu'il m'avait envoyé et qui était « Il ne fait pas assez noir » et que on peut considérer comme un livre très important de lui puisque c'est en somme son premier livre qui était publié un peu plus tard alors qu'il avait déjà publié d'autres livres.
Jean Cassou.
Mais c'est à la lecture de ce manuscrit et sans rien savoir de l'état dans lequel se trouvait Jo Bousquet, que j'ai compris qu'il s'agissait là d'un homme très singulier à qui j'ai écrit pour dire l'intérêt avec lequel j'avais lu ce manuscrit, mais que j'y avais trouvé un accent assez étrange, que je ne m'expliquais pas certains aspects de cette écriture, que j'y trouvais une relation exceptionnelle de l'auteur avec le monde extérieur, et que je souhaitais mieux connaître cet auteur. Il m'a répondu une lettre, et dans cette lettre, il m'expliquait les raisons de mon étonnement. Et qui correspondait en effet à une réalité, c'est qu'il était immobile. Et c'est ce qui m'avait frappé, sans que je puisse l'exprimer clairement, dans la lecture de ce manuscrit et dans cette relation singulière que j'y trouvais entre l'auteur et le monde extérieur. C'est que cet auteur était immobile. Cet auteur ne pouvait jamais dire « Eh bien, je sortis ce matin-là, j'allais à tel endroit. » Il n'y avait pas de mouvement. Le monde extérieur n'existait pas et l'espace de ce livre était restreint. J'avais senti cela sans m'en expliquer la cause concrète. Et Jo me l'a donné. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à nous connaître par correspondance et par devenir amis. Et notre amitié a eu ce caractère tout à fait particulier, c'est que nous ne nous étions jamais vus. Alors plus tard, bien, j'ai eu l'occasion de lire Carcassonne. Nous nous sommes vus, n'est-ce pas ? Et notre amitié a changé. Mais déjà, déjà des choses étaient intervenues qui nous avaient de plus en plus rapprochés l'un de l'autre, en particulier la mort de son ami Estève, vous savez, professeur de philosophie au lycée de Carcassonne, qui n'avait jamais voulu d'avancement dans sa carrière de professeur, afin de rester à Carcassonne auprès de son ami Jo, et c'était un homme d'une valeur intellectuelle considérable, qui a eu une très grande influence sur l'éducation philosophique de Bousquet et le développement philosophique de sa pensée.
J'attends beaucoup de cet hiver, qui semble déjà vouloir m'obliger à tout tirer de moi-même, car j'ai déjà des indices que je vais être de nouveau très très malheureux, que je vais approfondir des douleurs qui me feront paraître comme une espèce de préface, le manuscrit que vous avez entre les mains. C'est dans des moments comme ceux que je vais traverser qu'il serait sans doute profondément émouvant de vivre à deux pas de vous, de vous entendre vous reposer sur une idée de la beauté qui porterait en elle le désespoir.
Toutes les études qui ont été faites sur ce langage particulier, sur ce style extraordinaire de Jo Bousquet, ont amené les chercheurs à revenir à la source première, et cette source, c'est sa blessure. Il est né de sa blessure, il est vraiment né, son génie et sa pensée et la forme insolite de sa pensée viennent de sa blessure et de cette immobilité. Il ne peut pas dire qu'il va dans le monde extérieur, vers le monde extérieur. Il ne peut reconstruire le monde extérieur que dans sa pensée. De sorte que ça l'oblige à une écriture perpétuellement réfléchie au sens grammatical du terme, ainsi qu'au sens philosophique du terme, c'est-à-dire réfléchie et réflexive. La vitalité de cet homme dans son lit, n'est-ce pas ? Il n'était qu'un buste, mais ce buste était très vivant, son regard était très vif et ardent, il avait une belle tête de méridional, très, très, très pure, très noble et très passionnée. Et son geste était extrêmement animé, il s'amusait des choses.
Seul comme je le suis, dans ma folie, dans mon absence de tout lien réel, j'ai voulu créer un espace bien à moi. Il n'y avait pas de place en moi pour celui que j'étais resté. Il a fallu que je devienne le vertige de tout ce qui était bâti à mon image. Seul, avec mon langage à moi, qui commençait à me donner le secret de toutes les voies naturelles, non pas changer, mais renaître. Apporter la preuve que je ne suis pas mort, que quelque chose de plus grand que ma vie peut, comme par hasard, naître de ma parole.
Comment peut-on expliquer que Jo Bousquet, en tant qu'écrivain, soit aussi peu connu à l'heure actuelle ?
Bah, écoutez, parce qu'il est très difficile à lire. Il est extrêmement difficile à lire. Et sa pensée est une pensée, je dis, tout à fait exceptionnelle et insolite. Il faut, pour pouvoir la comprendre, renverser les conditions de temps, d'espace, de mouvement dans lesquelles se trouvent tous les hommes, dans lesquels nous nous trouvons tous. C'est une littérature qui demande un très gros effort intellectuel, un très gros effort philosophique, et je dirais même métaphysique.
L'âme ne s'éveille que brisée.
C'est un des plus grands événements de ma vie. Ça, c'est un des événements les plus considérables de toute ma vie. Et c'est un des souvenirs les plus chers. Je me considère comme un privilège d'avoir été l'ami de Bousquet, d'avoir eu avec lui une telle amitié.
Je veux travailler régulièrement, comme si j'avais attiré de ma vie l'idée d'une vie plus haute. Je veux que toute mon existence ait été de concevoir. Concevoir, au sens absolu, signifie concevoir un autre soi-même. Serait-ce le dernier mot de la culture ?
La science Armand résume toutes ses théories. C'est le seul roman qu'il appelle, enfin le seul livre qu'il appelle roman, tout au moins. Et c'est, à mon avis, du point de vue de l'histoire littéraire, c'est un événement clé. C'est le premier nouveau roman.
René Nelly.
On ne l'a pas vu sur le moment, sauf Rob Grier, qui a écrit un article remarquable sur les livres de Bousquet. Mais Rob Grier avait très bien vu que le nouveau roman était en germe dans l'Antidote de Sarment. Alors, voyez-vous, pas de personnage, parce que le personnage « je » n'est pas un personnage. Et puis, il est d'ailleurs divisé en trois. Il y a « je », il y a « Sabas », il y a « Dombasa ». Puis ensuite, nouveau roman par le primat du morphologique, par le primat de la forme. Tout est forme dans Tisane Sarment. Seulement, on ne s'en est pas tellement aperçu parce que la doctrine de Bousquet étant l'irrationnel, c'est une morphologie de l'irrationnel. Mais à plus forte raison, c'est par là qu'il était vraiment nouveau roman. Il y a trois personnages femmes qui portent le même nom, Paulette Duval. Il y a... Et puis alors, tout obéit à une sorte de ronde mythique. Par conséquent, comme l'avait très bien vu Rob Grier, c'est une sorte de film. Ce roman n'est pas du tout immobile. Il peut être filmé. Et si on le filme, il devient alors roman abstrait, cinéma abstrait. C'est une structure. C'est la structure qu'il avait sous les yeux avec le grand tableau de Marcel qui représentait un oiseau. C'est, si vous voulez, un roman abstrait. Et en même temps, le triomphe de l'imaginaire, en tant qu'il est à la fois l'aventure de l'événementiel, c'est-à-dire l'aventure de ce qui arrive, et l'aventure du langage. Les deux devenant somme toute la même chose.
Contre-écrire, je n'ai jamais eu qu'une chose en vue, qui est de rendre son rôle véritable au langage. Je ne suis pas venu au monde pour écrire des œuvres, mais pour désigner celles qui devaient disparaître. J'aurais naturellement opéré une révolution dans l'art d'écrire. Je n'aurais rien construit, rien donné. J'aurais montré la voie. Le but de toute existence, c'est de créer un type d'humanité nouvelle. La beauté n'est pas un but, mais un chemin vers les choses. Une forme d'art à créer. J'écris contre l'art, contre la littérature.
On m'a souvent demandé ce qu'il fallait penser du catharisme de Bousquet. Historiquement parlant, scientifiquement parlant, il est difficile d'établir dans quelle mesure il était cathare ou il a penché vers le catharisme, on ne l'était pas. Ce qui paraît, ce qui m'inclut à croire, qu'il a été, enfin qu'il a donné à un certain moment dans la théorie cathare, c'est d'abord qu'il a subi l'influence de Simone Veil. Simone Veil, catholique, bonne catholique, était en réalité extrêmement dualiste. Elle était nourrie de Platon, elle lisait beaucoup Platon, et était assez portée à croire, comme au fond toute l'humanité l'a cru jusqu'au christianisme, que la matière était éternelle et par conséquent constituait le mauvais principe. Platon dit quelque part, enfin, Dieu aurait bien voulu créer les choses parfaites, les choses comme le mieux possible, mais il se heurtait à la matière dont il se servait, qui est imparfaite et qui par conséquent l'obligeait. Ah, ça c'est le catharisme, ou du moins c'est le dualisme. Bousquet n'était pas loin de croire ça. Et il donnait raison à Simone Veil. Je me souviens, j'ai souvent assisté à leur conversation. Bousquet était convaincu qu'il y avait vraiment deux réalités. Seulement, ces deux réalités, il se représentait tantôt comme des contraires, mais toujours juxtaposés. Bousquet n'a pas tellement l'idée de l'au-delà. Notre vie, notre mort, ça existe ensemble. La lumière et le noir, ça existe ensemble. Ça existe à côté. Ça, il faut vrai que c'est très cathare, ça. C'est vraiment très cathare. Il subissait peut-être aussi, je ne parle pas de mon influence personnelle, j'étais beaucoup plus jeune que Bousquet, mais enfin, celle surtout de Rocher, de Déodat Rocher, qu'on appelle dans la région le pape du catharisme. Rocher professait un dualisme, ce que les hérésiologues appellent le dualisme mitigé, c'est-à-dire que ce ne sont pas deux réalités absolument existantes. Hein. Il n'y a que le dieu du bien et le mal n'est qu'une corruption, qu'une perversion. Alors, pendant quelque temps, Bousquet fut dualiste mitigé, et c'est sous l'influence de Simone Veil, à mon avis, qu'il serait devenu dualiste absolu. Mais il n'en a jamais beaucoup parlé. Le texte essentiel sur le catharisme, Bousquet l'a publié dans le Prière d'inséré de l'œuvre de la nuit, qui est une petite plaquette. Prière d'inséré, imprimé sur une feuille séparée, sans signature, et qui, bien entendu, s'est perdu. Personne ne l'a. Alors, je l'ai republié en même temps que sous le titre Un credo dualiste. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire. Il était inévitable que Bousquet, vivant à Carcassonne, subit l'influence et d'un certain occitanisme et d'un certain catharisme. L'occitanisme est bien superficiel chez lui. Le catharisme serait peut-être superficiel si, par accident, il ne s'accordait pas avec ses tendances les plus profondes. De telle sorte qu'on ne peut plus maintenant, je crois, écrire sur Jean Bousquet sans prévoir un chapitre sur le dualisme.
Il voulait que rien ne bouge et qu'il puisse venir faire une apparition.
Il était persuadé qu'il serait ici. Le fait est que je le retrouve ni au cimetière, ni à l'église. Ici, je le retrouve, je viens très souvent. Et j'ai souvent accompagné des gens qui voulaient voir la chambre.
Un phénomène étrange, c'est... savent presque toutes les femmes qui ont connu Bousquet et même tous amis me l'ont dit, le sentiment d'angoisse en soulevant le rideau. Et le poète Lebrau a écrit quelque part, je ne me souviens pas d'être entré chez Bousquet et d'avoir soulevé ce fameux rideau sans un sentiment d'angoisse et sans être comme intimidé. Ça, c'est extrêmement curieux.
On avait l'impression d'être dans un autre monde.
Alors a commencé cette lutte, pied à pied, sans secours d'aucune sorte, privé de l'aide précieuse que m'aurait apporté l'amour d'une femme. Seul, avec quelques mètres carrés de peinture et les plus beaux poèmes du monde et les lettres de mes amis, dans une île où j'avais à lutter contre les éléments, contre les habitants, contre le langage, contre moi-même. Les parfums de ces fleurs que des femmes m'apportaient et qui se distinguaient à peine dans le jour des couleurs qui battaient des ailes sur les toiles clouées au mur. Voilà enfin mon deuxième conte, ma chambre. Le lieu du mythe le plus pur, le langage à délivrer du langage. C'était l'extraordinaire calme de l'abîme et du danger. Un endroit vertigineux où tout était possible, et où rien n'arrivait. Sans doute le lieu spirituel où s'élaborait une nouvelle notion de l'homme, une nouvelle idée de l'amour.
C'est Aragon qui a poussé Bousquet à réfléchir sur cette idée que les mythes, ce n'étaient pas seulement des histoires de fées ou des histoires de monde objectif ou de monde imaginaire, mais que c'était le social. Alors, cette idée a illuminé Bousquet. C'est à partir de ce moment qu'il a accueilli les histoires carcassonnaises, les histoires de petites villes, dont certaines, en effet, sont fulgurantes, qu'il les a accueillies comme de véritables symboles, comme des mythes révélateurs par eux-mêmes. Et c'est le médisant par bonté. Et d'ailleurs, le médisant par bonté est dédié à Aragon et à Elsa.
Alors voilà le dernier intersigne. Le dimanche 6 juillet, je devais aller voir ma sœur qui était à une maison de retraite.
Le 6 juillet de cette année.
Cette année. Et je suis descendue avec une amie qui m'avait aidée à classer les lettres de Bousquet par date, ou à peu près. Et elle me dit, mais où habitait-il ce Bousquet? Parce
puisqu'elle n'est pas ici.
Elsie.
Je descends donc la rue de Verdun. Je lui montre la porte, le grand portail d'entrée, comme vous avez vu, avec la plaque. Puis je lui dis, voyez, je rentrerai là. Alors je rentre. Je prends le grand escalier. Et j'arrive presque à la porte de la chambre de Bousquet. Pas tout à fait, parce que Madame Bateau, il faut suivre un couloir. Et on arrivait avec une porte. Le bureau du père étant à gauche. Et Madame Bateau a fermé la première porte, ce qui fait qu'on ne peut pas suivre ce couloir, pas plus qu'aller là. Et sa chambre n'est pas louée. Je dis, tiens, c'est fermé. Et puis je redescends. Et alors mon ami me dit... Et quand vous vous êtes brouillé, par où êtes-vous redescendu avec le bras qui saignait et la joue gonflée? Eh bien, je lui dis, j'ai pris le petit escalier de service au fond de la grande maison. Je suis descendu par là pour tomber dans les bras de Ducellier. Et voilà, je suis ressortie. Elle est partie de son côté, moi je suis partie du mien. Je suis arrivée à la clinique. J'ai trouvé ma sœur un peu fatiguée. Et... assez impressionnée, elle me dit, le docteur est venu et on me met en maladie. Elle était comme la veille. Nous avons parlé un moment, jusqu'à 8 heures du soir, et dans la nuit, on me l'a rapportée morte. Subitement, comme ça. Sans me prévenir, ni la clinique, ni personne. Alors j'ai dit, vraiment, Jo me porte malheur. Depuis que j'ai remué toutes ces lettres, tout ce passé, j'y vois moins bien. Mon fils me crée pas mal d'embêtements, il m'en avait d'ailleurs créé avant. Et puis je trouve que c'est bizarre, cette mort si brutale. Vous trouvez pas? Juste le jour où je rentre chez lui, depuis sa mort, je n'avais jamais plus franchi cette porte. Même quand on avait mis la plaque, je n'y étais pas allée. Puis alors après, j'ai vu un très bel officier et on m'a dit, c'est le fils Bousquet. Bon, puis ensuite, vous avez vu des photos?
Oui.
Puis ensuite, un jour, mon père à table m'a dit, le docteur Bousquet a une très grande épreuve, son fils est blessé, il a reçu une balle qui lui a traversé la colonne vertébrale, il ne pourra plus jamais marcher. Et mon beau-frère était médecin. Et mon beau-frère qui se trouvait là, c'était la fin de la guerre, dit « Bah, il est foutu, c'est fini, il ne pourra plus ni marcher ni baiser, c'est terminé. » Je me souviens de cette réflexion, il ne la mettait pas, hein, quand même. Et ça a été la chose exacte. Et alors, quand j'ai connu Jo, évidemment, il m'a dit qu'il m'aimait, mais il m'a dit « Vous savez que je ne peux pas faire l'amour, mais... » Je lui ai dit « Ça m'est égal, ça ne m'intéresse pas. » Et alors là, il a eu un mot très joli, qu'il y a, je crois, sur une lettre, « Mon cœur attendait ton visage et ton cœur attendait mon amour. » Je ne crois pas qu'il ait aimé beaucoup de femmes. Je crois qu'il a aimé cette petite Alice, la fille du jardinier. C'est la première femme qu'il a revue après sa blessure. Il avait donc, en ce moment-là, 22 ou 23 ans, sortant de l'hôpital. Puis ensuite, je suis arrivée là-dessus. Je l'ai connu en 27. En février 27, je suis tombée malade et je ne l'ai revue qu'en mai 27. Alors, en mai 27, mai, juin, il m'a dit qu'il m'aimait, que je le plaisais, que ci, que là. Bon. Et je n'étais vraiment son amie qu'en 28. Moment où j'ai commencé à prendre des photos, je me suis vraiment mise à l'aimer. Lui m'écrivait beaucoup, j'allais le voir à Villalier, il m'écrivait beaucoup. Et puis alors ça a duré comme ça jusqu'en 36, jusqu'en mars 36.
Qu'est-ce que vous avez aimé en jouant Bousquet?
Tout. Son physique. Sa conversation.
Il n'était pas un peu inquiétant?
Très. Mais sa conversation avec moi, il était charmant. Il était très affectueux, très doux, sauf dans des crises de colère, parce que nous en faisions tous les deux. Il était très, très gentil, vous verrez des lettres. Je crois qu'il m'a profondément aimé. Et puis ensuite, il s'est amusé. Il s'est amusé. Il a pris tout ce qui lui est passé sous la main, évidemment. Comme il faisait toujours, même quand j'y étais. Mais ça cassait toujours. Seulement moi qui n'étais pas mariée, suivant mon goût, j'avais trouvé dans l'amour de ce garçon un amour immatériel, n'est-ce pas, un amour absolument platonique, si on peut dire. Mais ce que je cherchais, l'amour. Quand je dis que je me suis brouillée avec Jo Bousquet à des gens qui l'ont connu, on me dit « Vous êtes brouillée avec lui, mais comment avez-vous fait ?» Il a fallu cette brutalité, c'était pas la première fois que je recevais des gifles, que ça passait. Seulement ce jour-là, j'ai dû être excédée, je n'en sais rien, puis je me suis dit « Il va lui donner tous les bibelots que j'ai donnés. » Elle est morte tragiquement, cette femme d'ailleurs. Elle est morte en voiture. Et elle était fort belle. J'ai tout cassé. Quand je l'ai revu, il avait les cheveux longs, comme vous savez, il était très changé. D'ailleurs, j'ai des photos. Il était très changé, évidemment, c'était plus le même homme. Moi, j'avais connu quand même un homme de 30 ans. Je retrouvais un homme de 40, de presque 50. Quand je vois les livres, j'y retrouve mon nom changé parce que il m'a donné tous les noms. Ainsi, sur Le passeur s'est endormi, il m'appelle Elsie. Je l'ai retrouvée là parce que voilà un an qu'Elsie est partie, il y avait juste un an que j'étais partie. Au fond, nous nous sommes quittés quand il a connu Henri de Monfred. Et Monfred lui a fait connaître l'opium à ce moment-là. J'ai rencontré Valérie, Aragon, ma chère. Je me demande si j'ai nettement compris sa valeur à ce moment-là. Parce que j'ai attaché surtout du prix à son amour. Et tout ce qu'il tirait de l'amour ne m'intéressait pas.
Mais vous reconnaissiez quelquefois dans ses livres ?
Oh oui.
Mais vous reconnaissiez l'image qu'il avait de vous, l'image que vous aviez de son amour pour vous ?
Ben oui, oui. Ah, j'ai passé 2 ans désespérée. Et jusqu'en 38-39, j'ai vraiment été très, très triste, très malheureuse. Je suis même allée le revoir une fois, oui. Et il m'a dit, c'est vrai que vous êtes malheureuse. J'ai dit oui. Mais il était tellement glacial que je ne me suis même pas assise. Et puis, ça a été fini alors, jusqu'en 46, jusqu'à la mort de ma mère. Et là, je ne l'ai plus vu parce que j'étais ailleurs. Je pensais, comme je dis à Gali, j'étais revenue parmi les gens normaux, parmi les vivants. Alors je me suis refaite une sorte de vie, pas la même bien sûr. Parce que je n'ai jamais aimé personne comme lui, ça a été vraiment un amour fou.
Mais vous n'avez jamais pensé quelquefois qu'il aimait peut-être plus l'amour qu'une femme ?
Si. Je ne suis plus à toi, je ne suis plus à moi, je suis à mon amour. Il me l'a écrit.
Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, aimer Joël Bousquet ? Ça représentait quoi ?
C'était aimer, être aimé surtout. Ça représentait être aimé comme je voulais l'être. Je cherchais un homme qui m'aimait et qui m'aurait aimé exclusivement. Ça, je ne l'ai pas eu avec lui. De choses inutiles, injustissantes, et le temps ne passera pas, le temps se frottera les mains. La première fois que je l'ai vu dans son lit, où il m'a plu dans son lit. Pourtant, Je l'ai trouvé charmant, je sais pas vous dire. Il avait de très beaux yeux, il avait les yeux de sa mère. Très beaux yeux. De jolies dents. De jolies mains. Il était assis dans son lit, il a eu l'air un peu étonné quand il m'a vu. Puis je lui ai dit, je suis Madame Grisou. Alors il m'a dit, oui, je vous connais. Lui me connaissait. Moi, je ne peux pas dire avoir eu le souvenir de lui normal, ni de lui blessé.
Croyait pas en la liberté. Il croyait qu'il répétait son destin comme un acteur répète une pièce qu'il joue. La seule liberté dont l'homme dispose est dans ce qui le surprend, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'amour, le risque, l'aventure, l'engagement. La seule liberté est dans les actes dans lesquels nous sommes engagés, sans que nous sachions à l'avance comment nous y réagirons. Il faut que ce soit le destin lui-même qui nous apprenne ce que nous avons fait et ce que nous avons à faire. Mais alors, où est la liberté? Elle n'est pas en nous, elle est dans l'autre, elle est dans celui que je ne suis pas. Alors, et on retombe toujours sur la théorie dualiste, ne pas être celui que je suis. Sous-entendu, celui que je ne suis pas, c'est cela que je suis vraiment. Qu'on le veuille ou non, cela me paraît assez profond tout de même. C'est quand même vrai, ça. C'est quand même vrai. C'est vrai. Et je n'en veux pour preuve que le fait que sur un plan plus, au fond, moins philosophique, mais plus religieux, c'est au fond la même chose que ce que le Christ a dit, enfin, celui qui ne perd pas son âme ne la gagnera pas, celui qui n'abandonne pas tout ne gagne rien, enfin, c'est l'idée au fond de tous les occultistes. Seulement chez Bousquet, de tous les hermétistes, enfin, seulement chez Bousquet, cela a pris la forme d'une coexistence. C'est, je crois, cela qui est la pensée forte de Bousquet. Alors, en un sens, nous sommes libres parallèlement à l'être qui n'est pas libre. J'ai toujours médité, bien entendu, je connais Bousquet depuis très longtemps, sur ces paroles qui, outre qu'elles rejoignent certains, un grand nombre de préceptes des philosophies antiques et orientales, mais outre qu'elles sont confirmées par une expérience métaphysique, j'ai moi-même remarqué combien c'était vrai. Nos réactions sont imprévisibles. Les réactions d'un homme devant telle femme, d'une femme devant tel homme, c'est absolument imprévisible. Nous en sommes les premiers surpris. Quant au langage, cette espèce de le cri, ce que Bousquet appelait cri, C'est le cri élémentaire, enfin, que les animaux connaissent, le cri de douleur. C'est le cri devant l'événementiel. Mais ce cri, chez l'homme, devient, pour ainsi dire, une sorte de ton. La théorie de la liberté de Bousquet est assez liée, assez en accord avec son goût du risque. C'est dans le risque que la liberté se manifeste. Parce que c'est dans le risque qu'on ne sait jamais comment on réagira. Je sais bien que tout cela ressemble un peu, ça ressemble à Gide, qu'il admirait, c'est la disponibilité, cela ressemble à la liberté existentialiste, cela ressemble à la liberté nietzschéenne. Mais c'est quand même très, très différent. Pour Bousquet, nous attendons toujours une révélation de l'être. Là, le dernier mot de la philosophie de Bousquet. Alors, cette révélation de l'être, c'est à la fois une connaissance et c'est à la fois la liberté. Et c'est une liberté toujours à la limite.
changé. Le lit est toujours là. Il me semble voir encore Bousquet sur son lit, à demi soulevé. Il n'était pas dans la position de malade. Il était dans la position de monsieur enrhumé qui se tient sur son lit. Le désordre sur le lit rappelle celui qui a toujours régné sur son lit.
Saisi d'une émotion inconnue à la vue de cette peinture, j'arrachais à pleines mains les manchons de liège, me blessais au très long clou qui les fixait à la baguette, et, demeuré haletant devant cette image, enfin nue comme un miroir sans fond, où la matière million d'oiseaux d'air dans une ligneuse se renouvelait comme une cascade. Devant un portrait de la matière, je n'avais pu supporter que la matière fût. Je venais de comprendre que ce peintre était le grand homme, le plus grand homme d'un monde où tous les individus me ressemblaient.
Il y avait beaucoup de tableaux surréalistes qui n'y sont plus, mais il y en a encore quelques-uns. Mais tous les murs étaient bourrés, en fait.
Vous voyez encore les marques des tableaux.
Il y a encore les marques.
Tout était gardé.
Max Ernst a joué un très grand rôle dans la vie de Bousquet, d'abord parce que le hasard objectif a joué pendant la guerre de 1918. Il se trouve que Max Ernst était artilleur allemand dans la partie du front directement opposée à celle de Bousquet. Parce que, il est possible que les obus de Max Ernst aient tué des hommes de Jean Bousquet. Et par la suite, ils ont évoqué ces souvenirs émouvants. Mais enfin, cela n'aurait pas suffi. Bousquet a dit lui-même l'émotion que lui avait causée la première toile de Max Ernst, qu'il a déballée en se blessant les doigts au clou, tellement il avait mis de hâte à défaire le papier, enfin la toile qui empaquetait tout cela. Et il voyait se matérialiser dans les toiles de Max Ernst tout ce qui hantait son imagination, tout ce que l'opium lui représentait, mais il le voyait, on n'y insistera jamais assez, il voyait harmoniser les toiles de Max Ernst, même quand elles paraissent chaotiques, quand elles paraissent d'une fantaisie absolument saugrenue. En réalité, sont toujours extrêmement harmonieuses, extrêmement composées, autrement dit belles. Je sais bien que le mot de beauté est suspect aujourd'hui, enfin disons euphoriques. Elles font un effet heureux sur la sensibilité de l'homme. C'est ça qui me semble quand même essentiel. Alors, Bousquet adorait la peinture d'Ernst. Il avait de très belles choses.
Un ciel comme de la chair sur un univers éclos de la voix. Un matin qui ne sort pas de la nuit, mais tire la matière de son sein pour la chercher en lui, cette nuit qui va le fuir dans l'explosion des étoiles. L'œuvre de Tanguy, dans son dépouillement total, correspond à une magnifique réhabilitation de la chair, de cette chair qui dit que la conscience est inutile. La peinture surréaliste nous introduit dans un autre monde où la beauté s'éveille avant la vie, où l'on voit précisément la vie s'arracher à la beauté, la prendre pour entrailles, avant de tourner vers nous ce terrible regard, mortel à tout ce qui survit en nous de notre passé d'homme.
Il a connu Magritte pendant la guerre de 40. Magritte est passée. Et si Bousquet a vraisemblablement préféré, au moins, toujours pratiquement, Max Ernst à Magritte, il est certain aussi que Magritte représentait exactement le réalisme imaginaire de Bousquet. On peut dire que ce que fait Magritte, c'est ce que Bousquet aurait voulu faire dans ses romans. Il y a par exemple des toiles de Magritte, je ne parle pas des toiles que les surréalistes jugent peut-être plus surréalistes, c'est-à-dire des toiles où la figuration est absolument déréglée, absolument invraisemblable, un œuf, une quille. Mais à ces toiles qui représentent, par exemple, je cite de mémoire, une maison de banlieue 1900, avec des balcons de fonte, avec que le platane ou l'arbre d'une autre essence, enfin, devant la porte, enfin, peint avec une exactitude de photographe, donc nous sommes ici en plein réalisme, et cependant, cette maison, cette villa, prend une signification extraordinaire, strictement indéfinissable, et qui n'est pas, à proprement parler, picturale. Elle est poétique. Et c'est pour cette raison que je dis que Magritte ressemble énormément à Bousquet. Belle-mère, c'est différent. Belle-mère, je dirais presque que c'est le philosophe qui était en belle-mère qui a saisi Bousquet.
Chacun de nous a dans son sexe des traces de l'autre sexe, qui sont les éléments de son amour. Et c'est par une nuance aussitôt dissipée d'homosexualité que tu as en toi le moyen de saisir la couleur exacte du vertige que j'ai d'abord ressenti en te rencontrant. Il faut que tu sentes, jusqu'au battement du cœur, combien tu es belle dans mon regard, et combien tu accomplis mon regard, comme si celui-ci, en te connaissant, quittait l'ombre de ses forêts et montait dans du soleil. Il faut que tu saches très exactement que toute ma chair, en te découvrant, se changeait comme une pensée. Ce n'est pas une façon de parler. Si ces affirmations prennent en dehors de moi une tournure poétique, c'est que la vérité pour exprimer notre union se change en poésie. Je voudrais dès maintenant te communiquer le choc de cette révélation que tu m'as apportée, qui n'était pas une révélation physique, mais une révélation spirituelle, où tout le corps rêvait qu'il changeait de nature. J'ai compris tout l'ésotérisme de l'amour.
Belle-mère était à sa façon une sorte de grand penseur. Il connaissait le corps masculin, le corps féminin, le corps androgynal, le corps de l'homme et de la femme mêlés. Il connaissait toutes ces apparences d'une façon parfaite et en même temps d'une façon artistique. De façon. Belle-mère avait le don, enfin prodigieux, d'ailleurs c'est ce qu'il m'a souvent dit. Il me disait qu'il était absolument, absolument ridicule de dessiner ce que l'on voyait. Enfin, il faut dessiner ce qu'on imagine, de telle sorte que ce qu'on imagine apparaisse aussi réel que ce qui est vrai. Alors, belle-mère était capable de faire, par exemple, un corps de femme dont la trame, dont la substance, était ces petites briques rouges qui composent les cheminées d'usine. Et puis, il y avait chez belle-mère une sorte de philosophie sadique ou sado-masochiste. Ses fantaisies étaient célèbres à Carcassonne. Il trouvait toujours des modèles, femmes évidemment, pour se prêter à ses, peut-être avec plaisir, à ses fantaisies. Elles se faisaient ficeler comme des saucissons, elles se faisaient piquer, elles se faisaient larder de coups d'épingle. Et pour belle-mère, tout cela, c'était vraiment l'imaginaire érotique libéré. Alors Bousquet était ravi par cette expérience, auquel il ne participait pas. Je ne crois pas qu'il ait jamais vu la poupée de belle-mère en réalité. Mais cette... La poupée, vous savez ce que c'est, enfin, ce sont ces poupées ficelées de telle sorte que la femme a un sexe partout. Tous les bourrelets forment des sortes de sexes utilisables pour ceux qui savent l'utiliser. Et c'est... Cette espèce de pansexualisation du corps féminin allait tout à fait dans les idées de Bousquet, qui lui était hanté, vous le savez, je l'ai souvent dit pas ailleurs, par l'idée au fond de transformer la femme en androgyne véritable. Elle l'est androgyne, mais il aurait voulu qu'elle fût vraiment un homme et une femme.
Le beau ici impose le révoltant. L'apparence du physique a été éventrée, elle nous foudroie avec des évidences où l'ordre conventionnel des sciences ne se retrouvera plus. Dessins de femmes des livres des mosquées minérales. Des chevelures démêlent les écumes souterraines du charbon. Une rigueur extrême administre ses flux et reflux. Tout le réel s'ajuste, tout l'imaginable. Et hors de ce qui se représente, il n'est que des fictions. Le regard est le balancier de l'existence, depuis que tout est pesé sur les délires du jeu. Le spectacle manifeste une vérité pleine et qui s'ignore, dont rien n'est retranché, rien d'extérieur, rien d'intérieur. Lèvres du ventre et primes vert du noir, l'étude de l'avalanche et des phares et du cuir, toutes les inflorescences nouvelles accentuent la certitude sans prix que la vie est un scandale pour la raison. Mais leur fourmillement équilibré et sidérant vient de ce que deux univers l'engendrent à la fois, ce qui produit l'homme, ce que l'homme produit. Union de la chair visible et des strates nocturnes dans un monde où le regard et l'être s'ajustent et coïncident. Découverte de l'homme à des profondeurs viscérales, où on ne savait pas les sens si présents, mais en contrepartie d'énigmes menaçantes. De quel regard extraoculaire a dû se revêtir la pulpe de ses doigts sorciers pour unir le dedans et le dehors en une stature implacable? Et quel esprit du sens, associant le visible et le caché, en a fait un épouvantail pour dissiper l'épouvante?
Bousquet, c'est vraiment l'anti-raison. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il considère que l'essence du monde n'est pas rationnelle. C'est une idée assez bizarre, assez dangereuse. Il croit que le monde, dans son essence, est parfaitement inconnaissable. Là, sur ce plan-là, beaucoup de savants et de philosophes sont de son avis. Mais il croit que la seule façon de l'atteindre tant bien que mal, d'une façon approximative, c'est de ne pas être raisonnable. Mais me dira-t-on, où capter cette déraison? Mais cette déraison, il la capte toujours dans le langage. Pour lui, le langage n'est pas un instrument pratique, ce n'est pas un instrument de traduction. Le langage n'exprime pas, le langage révèle. Il révèle vraiment l'être. Nous ne connaissons pas notre être. Alors c'est là que la critique contre la raison s'exerce. Toutes les fois que nous assimilons notre être à la raison, à l'intelligence, nous commettons un contresens absolu. L'être, le vrai, c'est celui qui nous surprend, c'est celui qui nous nie, c'est celui qui ne se laisse appréhender par aucune catégorie logique, c'est celui qui passe dans le langage comme un cri ou comme un ton, et qui, par conséquent, nous apprend sur nous-mêmes ce que nous ignorons. Là, cette espèce de d'irrationnel ou d'irrationalisme prend quelquefois chez lui le nom d'inconnaissance. Il a écrit des notes d'inconnaissance. C'est à peu près dans le même sens qu'il prend les deux termes. Toutes les fois que l'on veut connaître, on se condamne à ignorer. Connaître l'amour, savoir ce qu'est l'essence de l'amour, c'est une folie. Seule l'inconnaissance atteint la réalité même des choses. Ce sont les amoureux fous qui sont dans le vrai. Ce sont les philosophes qui déraisonnent, qui sont dans le vrai. Et bien entendu, ceux qui ignorent. On peut, si l'on veut, on peut comparer cette inconnaissance à la docte ignorance des philosophes chrétiens. Il est exact que beaucoup de philosophes ont dit, en effet, quand il concerne Dieu, par exemple, il vaut mieux dire qu'on ne sait pas ce qu'il est que le définir d'une façon absolument saugrenue. Alors sur ce plan, Bousquet est tout à fait dans la ligne des grands mystiques et des grands philosophes. Mais peut-être a-t-il tout de même poussé son irrationalisme un peu loin et d'une façon un peu dangereuse. On pourrait se représenter le monde de Bousquet, si l'on veut absolument le ramener à une philosophie classique, à la façon des monades de Leibniz. Au fond, Bousquet croit qu'il n'y a que des points d'unité. Le monde est fait d'apparitions, de phénomènes qui, chacun, épuisent la totalité du monde. C'est assez curieux, ça. Et il s'appuyait sur une constatation qui, ma foi, est tout à fait, me semble exacte. Il n'y a pas une idée qui ne se prenne pour un esprit. Nous ne pouvons pas, même si nous étions réduits à une seule pensée, nous ferions de cette pensée le sujet de notre être total. Et je parlais tout à l'heure de Leibniz, on peut se demander en effet si chaque point du monde réel, si l'herbe, si l'insecte, si nous, et même si chacun de nos atomes ne sont pas des lignes qui s'enfoncent à l'infini, dans l'infini. Alors, à ce moment-là, voilà ce qui peut-être réconcilierait Bousquet avec des philosophies plus classiques. Il n'y a pas de vérité, certes, mais tous les êtres sont identiques. Alors cela expliquerait que Bousquet ait cru qu'après la mort, il ne se continuait pas. Ce n'est pas un être né de lui qui lui succède. Il était très éloigné des doctrines hindouistes, par exemple, qui parlent d'un soi suprême, auquel on accède par son moi. En niant son moi, c'est possible, mais enfin, on y accède par le moi. Pour Bousquet, le double, celui que l'on est après la mort, ce n'est pas la suite de ce qu'on a été, c'est la même chose. Cette notion de ressemblance que j'avoue ressentir, moi, avec une extrême netteté, est une des plus difficiles à concevoir. Envisager ce temps, la mort n'existe pas. C'est d'ailleurs ce que pensait Bousquet.
Et il est resté là au garde à vous, comme si la balle qui devait le tuer à 20 ans ne l'avait atteint qu'à 7 minutes.
Il était rentré depuis 24 heures de l'hôpital. Nous avions demandé au docteur de le ramener, le docteur Soumple, parce qu'il y avait beaucoup de dévouement. Il m'a dit, vous voulez qu'il meure à la maison ou à la chambre? Je lui ai dit, il me semble que la maison, ce serait moins pénible pour lui. On l'a ramené 24 heures avant. Et alors, à ce moment, il était dans le coma, mais il avait quand même sa lucidité. Il a passé une nuit assez pénible. Et puis le matin, à 10 heures, le docteur Soumple est venu. Il lui a dit, Jo, est-ce que vous voulez que je vous fasse une piqûre? Il a dit, non, je veux voir venir la mort en face. Je ne veux pas. À ce moment, j'étais près de lui, et à 11 heures, il a appelé son infirmière, il a dit, il faut que Jeanne fasse ma toilette. Elle s'est mise à sa gauche, et j'étais à sa droite avec ma cousine, Madame Jouclin. Nous le tenions, nous le soulevions pour qu'elle puisse lui passer une chemise, je ne sais plus quoi. Nous le soulevions. Et à ce moment, il s'est tourné. Il a posé la tête sur l'épaule de ma cousine, il s'est serré contre moi, il est mort. C'est à l'objet de nos mains, il est mort. J'ai fait l'infirmière qui criait, il est mort, il est mort. Je l'ai mis sur le dos, il avait un visage délivré. Et vraiment, il a voulu aller vers la mort, il luttait pour mourir à ce moment, c'était très curieux. Il ne luttait pas contre la mort, mais pour aller vers la mort, il avait un visage illuminé, il avait son visage de 20 ans, il souriait, il avait un visage admirable. Et on avait dit dans le Figaro qu'il s'était suicidé. C'était absolument idiot, voilà comment il est mort. On avait donné une liste de suicides, on y avait ajouté, voilà tout. Dieu sait qu'il était l'occasion de le faire et qu'il y avait pensé, mais il avait 20 ans. Et ça doit être affreux d'être isolé de la vie à 20 ans.
Pardon, quand le capitaine Oudard nous avait arrivé, avec le lieutenant Van Wierma, qu'est-ce que vous ramenez? Alors lui, c'est le lieutenant Bousquet. Alors pour la première fois, le capitaine Audard. Je l'ai vu pleurer. Oui. Pour Bousquet, d'ailleurs. Et alors, il a eu son remords. J'aurais pas dû, il a dit. J'aurais pas dû. C'était la fatalité. Dès qu'on a dû m'attourer, on y est allé. D'autres auraient peut-être fait demi-tour. Lui, il n'a pas voulu. Il avait une mission, il a voulu l'accomplir jusqu'au bout. Et nous, nous avons continué avec lui. S'est penché sur lui, il l'a embrassé.
La compagnie était commandée par le capitaine Audard, ancien jésuite, et l'un des lieutenants, Bousquet. Ce jésuite était un homme d'une rigueur morale extraordinaire. Alors il exerçait une contrainte droite et juste sur ses hommes, mais sur Bousquet. Bon, Bousquet était extrêmement indiscipliné, il le dit lui-même. Il refusait d'obéir parce que ça ne lui plaisait pas.
Nous étions partis un jour en chose. Nous étions en repos. Alors nous ne devions pas faire d'exercice. Ensemble, on ne devait pas se coucher ni rien du tout. On devait simplement aller faire un peu de maniement d'armes, un peu de marche et tout. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a attendu un endroit où il y avait le plus de boue. Et il nous a dit, couchez-vous. Nous nous sommes couchés. Seul, le lieutenant Bousquet est resté debout. Bousquet, couchez-vous. Regarde à vous. Pour la deuxième fois, Bousquet, couchez-vous. Rien. Pour la troisième fois, Bousquet, couchez-vous. Rien. Compagnie, debout. Nous rentrons. Nous sommes rentrés. Et il lui a dit, lorsque nous avons rempli les rangs, Bousquet, je vous attends. Alors il y a eu une discussion, et une discussion que j'ai su par la suite par lui-même. Et il lui a dit, comment, lui a dit. Oui, vous m'avez enlevé de mon autorité. Vous avez refusé de vous coucher. Et pourtant, il lui dit, écoutez, mon capitaine, je n'avais pas ma tenue de campagne, j'avais une tenue de sortie. Vous auriez dû nous dire que nous devions faire de l'exercice. Il dit, écoute, tout ça, bon. Bousquet, il lui dit, la prochaine fois que je dirai à la compagnie de se coucher, vous coucherez-vous. Il lui dit, mon capitaine, je me coucherai. Eh bien, moi, capitaine Audard, il me dit, je vous jure que jamais plus je ferai coucher ma compagnie dans la boue.
C'est ce père Audard qui a été mêlé aux derniers instants de sa vie. Et ce qui montre bien combien les hommes de Bousquet lui étaient dévoués, c'est que ces hommes l'ont ramené au péril de leur vie. Et ils l'ont ramené au capitaine Audard, qui, je répète, adorait Bousquet, et qui consterné. Et alors, il l'embrassa sur la bouche, comme font, paraît-il, les religieux, et dans le but de les maintenir dans un état spirituel convenable, enfin, par rapport à la joie, jusqu'à la mort, jusqu'à l'agonie, autrement dit, de leur procurer la bonne mort. Et peu de temps après, les Allemands avançant toujours, Audard se défendit comme un tigre à coups de revolver, mais il fut abattu par les Allemands à coups de crosse. Alors voilà précisément l'un de ces signes auxquels je pense. Bousquet a dit lui-même, il me l'a dit 100 fois, il l'a dit à plusieurs femmes dans des lettres, il a souvent dit, le capitaine Audard ne me quitte jamais, l'ombre du capitaine Audard ne me quitte jamais. Il est toujours là. Je ne suis jamais seul, a-t-il dit. C'est d'autant plus curieux que Bousquet avait des côtés homme de lettres. Il tenait à passer, enfin pour un homme de gauche qu'il était, à passer pour un révolutionnaire. Et il aurait pu craindre que devant, par exemple, Aragon, devant un communiste, devant cette pensée, cette affirmation, ne fit passer pour une sorte de clérical. Ça, il n'était pas du tout. Bousquet, quand Bousquet dit que l'ombre du Jésuite d'Arles ne guidait pas, il le dit parce que c'était vrai. Et quand on y réfléchit bien, c'est peut-être ce qui explique en partie la fameuse conversion de Bousquet, que je crois d'ailleurs qui n'est pas niable, enfin qui offre des explications extrêmement diverses. Et j'ai l'impression que Bousquet s'est considéré comme en agonie jusqu'à sa mort. Et cette espèce de charme magique, d'envoûtement qu'avait lancé sur lui le jésuite, s'est réalisé. Et le plus étonnant, c'est que quand on réfléchit au fait que pour quelqu'un qui reste immobile dans un lit, la vie passe très vite. Elle passe d'ailleurs vite pour les gens qui ne sont pas dans leur lit. La vie passe très vite. Bousquet mourant a dû se retrouver très facilement, abolissant le temps, dans la situation où il était envahi au moment où il a été blessé à mort, croyait-il, puisqu'il n'est pas mort. La question de savoir à quoi croyait Bousquet est extrêmement compliquée. Je pense qu'il a toujours cru en l'être suprême. Par conséquent, il y a un être qui est l'absolu et qui est, si l'on veut, Dieu. Mais il se gardait absolument de donner des détails sur la personne de ce Dieu. Et même à différentes reprises dans sa vie, il a fait comme ces philosophes du Moyen-Âge qui aimaient mieux dire « Dieu n'est pas » que de dire qu'il est quelque chose que nous lui attribuons, nous, en tant qu'homme, et qui ne correspond pas du tout à son essence. Et sur la fin de sa vie, j'ai bien l'impression que Dieu et langage se confondaient pour lui. Il s'est confessé avant de mourir, parce que c'était pour lui la dernière aventure du langage.
Je suis Poisson d'or dans l'œuvre de Jo Bousquet. Jo Bousquet a représenté toute mon adolescence. Il a eu une influence évidemment très très grande sur moi. Mais je pense qu'il serait peut-être utile que je vous dise de quelle manière je suis arrivée auprès de Jo Bousquet. J'étais alors en Espagne lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de Jo Bousquet. J'avais 18 ans, j'étais dans un collège international pour apprendre l'espagnol, et là j'ai rencontré Ginette Dudognon, qui est devenue ma plus grande amie, et qui me connaissait après quelque temps extrêmement bien. Et un jour elle m'a dit: oh, je ne vois d'amour pour toi que celui de Jo Bousquet. Bien entendu, je n'ai pas pu y croire, car les conditions dans lesquelles se trouvait Jo Bousquet ne me permettaient pas d'y croire. Et puis j'ai oublié. Et un jour, je me suis rendue à Carcassonne, chez Ginette Dudognon, pour lui rendre visite. Et évidemment, nous sommes allés voir ensemble Jo Bousquet. Elle était une très bonne amie de Jo Bousquet, sur le plan de bon copain. Alors nous sommes allés voir Jo Bousquet chez Jeanne Ducellier. C'était le 8 juillet 1937, le jour de mes 21 ans. Et à peine nous nous sommes aperçus, nous nous sommes reconnus. Et tout a commencé. Cet amour a duré, cet amour unique, exceptionnel, mystique.
a duré jusqu'au jour où j'ai décidé de me marier. Alors, pendant bien des années, pendant 12 ans, j'ai reçu ces lettres que j'attendais. Les premières deux années, j'ai reçu sur un rythme assez accéléré des lettres. Puis les lettres se sont de plus en plus espacées. Bien souvent, je trouvais que c'était insuffisant. J'aurais besoin de recevoir davantage de nourriture. Je les attendais. J'attendais chaque jour. Et parfois, je me ressaisissais en me disant « Mais non, ce n'est pas juste, il ne faut pas attendre. » Tâche de vivre. J'étais très souvent comme un somnambule, comme un fantôme dans ce monde. Bon, c'était comme ça. Je n'aurais rien voulu d'autre, voyez. Je ne pouvais envisager rien d'autre que tout était... Tous ces garçons, ces amis de mon frère... Bon, étaient des garçons sympathiques, mais ils ne me donnaient rien, je ne pouvais pas. Mais j'avais cet amour qui était en moi, que tout le monde ignorait pratiquement. Ça n'était pas un amour comme les autres. D'ailleurs, si on lit ces lettres, on s'aperçoit bien que le langage de ces lettres est un langage mystique. Je suis soutenue par ta pensée, même quand tu te tais. J'ai confiance en ton âme et en ton esprit. Après cette longue maladie, je sens que mes forces se renouvelleront dans un corps purifié, changé. J'étais fidèle à Jo Bousquet. Peut-être que les autres devront me pardonner si je les ai trahis ou si je les ai illusionnés aussi longtemps que je n'ai pas décidé de me marier. J'étais fidèle à Jo Bousquet. Je lui rendais des visites brèves et rares. C'était dans l'ordre des choses. Ça n'aurait pas été normal, nous aurions été trop troublés si nous nous étions vus trop souvent. Alors j'arrivais généralement à l'improviste. Je montais ces larges escaliers. Et mon cœur battait, j'étais très émue. Je franchissais cette double porte. Et j'arrivais dans cette chambre, unique au monde. Jo, lumineux, éclairé sur son lit. Au jamais on avait pitié de lui de le voir sur ce lit. Et par hasard, il était sur ce lit, c'est tout. Il se dégageait dans cette chambre un parfum particulier, un mélange du parfum Mitsuko et de l'opium, sa tisane. Certains disaient, oui, on entre dans cette chambre et on y découvre une atmosphère de songe. Moi, je dirais davantage. Je dirais que dans cette chambre, l'atmosphère était particulière. Celle qu'on retrouve dans certaines églises, rares chapelles. Un lieu où l'on médite longuement. Dans cette chambre, on était ouvert à une autre mesure que cette mesure rationaliste. Et limité. Jo allait au-delà de la muraille. Il voyait au-delà. Et peu à peu, au cours des années, aussi bien Jo que moi, nous avons compris que nous étions vraiment sincères l'un envers l'autre. D'ailleurs, Jean ne m'avait-il pas écrit « Le temps et le cœur des amours s'entachent ». Donc il fallait du temps pour savoir si nous étions vraiment sincères, si nos âmes communiquaient vraiment comme nous le pensions. Il y a eu une grande rencontre dans la vie de Jo Bousquet, Simone Veil. Malheureusement, elle lui a fait de très rares visites. Puis elle est partie à Londres et elle est morte. J'aurais voulu, pour beaucoup de raisons, connaître Simone Veil. Pour moi, elle était une sœur. Et peut-être la seule personne que j'aurais pu, à un moment donné, craindre qu'elle prît ma place auprès de Jo. À l'égard des autres personnes qui entouraient Jo, je n'ai pas eu de jalousie. Je trouve que, surtout, elles étaient nécessaires à Jo. Et au contraire, la fidélité dans leur amitié était certainement un réconfort pour Jo, cette amitié qu'elle manifestait quotidiennement par leurs visites. Bien des années plus tard, non, il faut dire peut-être avant ceci, donc la vie était dure pour moi. J'étais à Paris, seule. Et un jour, j'ai reçu la chose suivante. Le jour où tu décideras de faire ta vie, de voir une vie normale, dans l'année qui suivra, dans les 6 mois qui suivront, pardon, Jo Bousquet mourra. Oh, non, pas de chagrin. Mais j'avais toujours le sentiment qu'un lien intérieur, ma force de vie, portait la vie de Jo. C'est arrivé, je me suis mariée au mois d'avril 1950. J'avais parlé de cette chose à mon mari, Ferdinando Tartaglia. Et je lui avais dit qu'en effet, je mourrais dans les 6 mois qui suivraient mon mariage. Et nous habitions alors Florence et un jour... Le facteur avait apporté 2 mêmes numéros du Figaro littéraire. Pourquoi 2 numéros ce jour-là, je ne sais pas. Si, je sais, en effet. Qui annonçait le décès de Jo Bousquet. Et c'est mon mari qui a reçu ces numéros. Il est venu avec beaucoup de délicatesse m'annoncer cette nouvelle. Oui, il peut sembler... incroyable que j'ai pris cette décision de me marier, sachant, ayant eu cette prémonition. Eh bien, le destin, il fallait accomplir le destin. Je ne pouvais pas faire autrement que d'accomplir le destin. Et j'ai accepté d'épouser cette être exceptionnel, peut-être le plus grand penseur de notre temps, un grand mystique, un grand philosophe, un grand poète. Rejeté par l'Église catholique, il est le seul au monde à avoir l'excommunication à vitae dux. Et pour moi, c'était la manière d'aller plus loin et en même temps de rester fidèle à tout ce que Jo m'avait donné. Parce qu'il avait fait de moi en même temps que de continuer à servir de plus près. Car finalement, je m'apercevais bien que probablement, je n'avais plus besoin de moi. Lorsque j'ai préparé ces lettres pour la publication de ce livre, je m'y suis décidée, car je pense que la vie est brève, elle peut nous surprendre à tout moment, et qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas négliger de faire. Bien entendu, la publication de ces lettres a été très, très bouleversante pour moi. Oui, je pense qu'il a aimé Marthe, par exemple, qui est, on dit être à l'origine de sa blessure. Les choses sont tellement complexes, comment peut-on dire Puis je pense aussi que jusqu'à la fin de sa vie, on ne peut pas dire qui on a aimé le plus. Et... Évidemment, la lucidité de Jo était une réponse à certaines attitudes de l'entourage, une réponse cinglante. Je crois que beaucoup n'imaginaient pas jusqu'à quel point il était lucide et à quel point il s'apercevait de cette comédie humaine qui existe dans ce monde et autour de lui forcément également. Vous savez, lorsqu'il est lors de ses obsèques, quand Brock a dit, eh bien voilà, c'est une muraille contre la connerie qui vient de s'effondrer.
Il y a 25 ans que Joël Bousquet est mort, peut-on oublier que l'on a été poisson d'or?
Oui, forcément, moi je ne pense jamais, pas facilement à moi-même, donc je l'oublie, j'oublie qui je suis, je ne sais pas qui, je ne m'intéresse pas à moi. Je ne peux pas oublier Joël, ce qui est autre chose. Je suis marquée, forcément. La lettre m'a remplie d'une émotion mélancolique dont je te saurais toujours gré, car ma vie tout entière m'y était donnée en une sorte d'éblouissement. Et rien n'est aussi exaltant pour une créature que de sentir en soi tout son destin. Plus haut que la joie, plus haut que la douleur s'élève le chant de la vie où l'homme apprend qu'il a été lui, et qu'un fait lui a apporté le privilège de se trouver égal à son infortune. J'étais fait pour l'amour. Cela ne veut pas dire que j'étais né pour le bonheur. Depuis que je suis blessée, j'ai toujours eu peur de m'aventurer, avec mon cœur plein de lumière, dans les durs réveils de l'existence. La voix aimée, les gestes de son corps qui m'entraînaient dans un autre monde, j'ai toujours craint de les voir se poser sur une terre où je n'irai qu'en rampant. Apprends-le enfin, puisque c'est toi que j'ai le plus aimé. C'est pour toi que j'ai le plus craint le choc du réel. Et c'est pourquoi ta décision me délivre d'une écrasante incertitude. Il faut que tu te maries. Et, de mon côté, je te jure que je ne me marierai jamais. Bien que j'ai exploré, depuis la mort de mon père, ma solitude effroyable. Ces arrêts étranges répondent à des situations exceptionnelles comme les nôtres. Il fallait notre séparation pour que je comprenne avec quelle intelligence de ma situation tu m'avais aimée. Et crois-tu que tu pouvais m'aimer sans être initiée à ma douleur? J'ai partagé mon fardeau écrasant avec toi. Je ne l'oublierai plus. Et toi, je sais que tu ne t'arracheras jamais au charme qui grandit en marge des grands désespoirs. C'est pour préserver cette réalité exquise que je te fais la promesse de garder intact ton souvenir. Tu vas voir la vie, une eau dormante sur laquelle on est emporté, qui ne paraît ni nous suivre ni nous émouvoir. La vie dort. Tu sauras que loin de toi, une petite lampe brûle toute la nuit au chevet d'un homme qui a eu besoin de toute sa force pour voir en toi une image du bonheur et non le bonheur même. Cela te paraîtra très étrange, mais aussi très doux, de penser que tu es toujours attendu par un regard qui a lu sur toi le secret même de l'être. Et quand tu seras triste, que tu douteras de la vie, si tu veux alors que je t'écrive une lettre, tu m'écriras. Je te répondrai aussitôt. Si l'envie te tient de venir me voir, tu viendras, à l'improviste, quand tu voudras. Petite fille, mon bonheur est très grand, parce que ta vie est venue te prendre. Écoute-moi. Il y avait une fois un homme qui avait trouvé une étoile. Oh, il ne savait pas bien l'importance de sa trouvaille. Et il croyait bien n'avoir mis qu'un caillou blanc dans son sac de voyageur. Seulement, à mesure qu'il marchait, le paysage où il s'avançait se faisait plus beau et le tentait davantage de s'arrêter et de déposer son fardeau qui se faisait de plus en plus lourd. Mais comment voir s'embellir l'horizon sans y trouver la promesse d'un horizon plus beau? Il allait de plus en plus exténué, sous le poids de cette lumière dont tout autour de lui paraissait naître. Et c'est alors qu'il a compris que sa faiblesse venait de l'anéantissement de son être et qu'il allait bientôt n'être qu'un souvenir dans le monde qui serait la solitude de l'étoile. Et cet homme a accepté. Et il est devenu le cœur de l'étoile. De grandes ailes se sont étendues dans l'air bleu de l'oasis. Et c'était l'étoile même qui prenait son vol pour se poser sur la plus haute cime où un homme les attendait. Cet homme, c'était lui-même. Je ne te dis cet apologue que parce qu'il regarde ta vie comme il regarde la mienne. Désormais, tu vas dans une autre vie, avec toute la tienne. Et rien ne s'y gâtera de la pure image que j'ai de toi. Ma vie est extérieurement une vie de rebut, et je n'en veux pas d'autre. Je ne grandirai jamais qu'en la voulant telle qu'elle m'a été infligée, en faisant de son épreuve un objet de désir. Il y fallait une vision de pureté et de beauté, et qui ne démentit pas mon rêve en se heurtant à mon corps blessé. C'est fait. Ce qui devait être est. Jean. Thank you.
paroles pour mener à d'autres paroles, en elles-mêmes désertes. Quoi que l'on se décide à dire, le silence exprime davantage. Il est la plus belle occasion pour les yeux, pour tout le visage, de parler seul. Et ces choses que je pensais, elles sont à la limite de ce que l'on peut dire. Elles ne sont peut-être que l'envers de ce que nous sommes, et c'est accomplir un effort inutile que de les mettre en parole. Leur forme la plus naturelle d'existence, c'est la forme de l'être.
C'était la seconde partie de Joé Bousquet, l'inconnaissant, une émission de Françoise Esteb, réalisation Jean Couturier, première diffusion le 29 octobre 1975 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.